On va prendre ensemble 1 Corinthiens 15 et on va lire les versets 12 à 34. 1 Corinthiens 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons enseigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Alors ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble que la résurrection a une place centrale. Elle est vraiment au centre, elle est importante. C'est ce que l'apôtre veut nous faire comprendre en écrivant donc même pratiquement tout ce 15e chapitre de l'épître aux Corinthiens. Et c'est vrai que la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit un petit peu. L'idée que notre corps physique, après la mort, puisse reprendre vie, quand bien même il est devenu poussière dans un tombeau, quand bien même il ait été disséminé par le vent, quand bien même il ait été jeté dans la mer, éparpillé et mangé par les poissons, eh bien Dieu peut ressusciter notre corps. Et c'est un miracle, c'est surnaturel, c'est extraordinaire. Et dans l'église de Corinthe, on voit que certains ne croyaient pas en la résurrection, ne voulaient pas y croire, c'est ce que dit le verset 12. Quelques-uns disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Alors Paul va entrer dans une argumentation pour défendre le bien fondé de la résurrection. Oui, la résurrection est vraie et il va la défendre. Est-ce que la résurrection est quelque chose d'important dans le salut? En vérité, on ne met pas toujours en avant notre espérance dans le fait d'être ressuscité. On va souvent mettre en avant la crucifixion et puis l'espérance de vivre éternellement. C'est vrai, on va parler de vivre éternellement. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend de vivre éternellement dans un corps qui est ressuscité. C'est ça, véritablement, l'espérance du salut. À la rigueur, ceux qui croient dans l'au-delà, il y a plein de gens qui croient dans l'au-delà, ils n'ont pas de mal à imaginer que l'âme, après, perdure, continue à vivre, entre guillemets, qu'elle existe toujours après, dans l'au-delà. Mais être chrétien, ce n'est pas simplement croire que l'âme va poursuivre son existence mais c'est croire qu'on va avoir un corps. On va reprendre un corps qui sera transformé, un corps qui sera glorifié. On va véritablement ressusciter. Un corps qui va pouvoir interagir, qui va pouvoir manger. C'est incroyable ça, hein? En même temps, un corps qui sera spirituel, mais un corps qui pourra parler, penser, qui pourra faire des choses comme on les fait ici, sur terre, hein? Mais un corps qui sera transformé. Et donc, Paul va défendre la résurrection, et il va le faire autour de quatre, on peut dire, ça s'articule autour de quatre points. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de christianisme sans résurrection. Voilà, vous pouvez ranger le christianisme de côté, ça n'existe pas s'il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas d'espérance s'il n'y a pas de résurrection. Aucune espérance. Et puis ensuite, il n'y a pas non plus de raison de continuer à souffrir, entre guillemets, pour Dieu, s'il n'y a pas de résurrection. Ça ne sert à rien. Et puis, il n'y a pas non plus de raison de continuer à vouloir être sanctifié dans notre vie s'il n'y a pas de résurrection. Tout ça, c'est ensemble. D'abord, il n'y a pas de christianisme sans résurrection. C'est ce que Paul dit. On va relire les versets 13 à 16. Il dit, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et on ne peut pas dire qu'on croit à la résurrection de Christ et que l'on ne croit pas à la résurrection des morts. Comme on ne peut pas dire qu'on ne croit à la résurrection des morts et qu'on ne croit pas à la résurrection de Christ. Les deux sont vraiment liés ensemble. Et Paul montre ici que c'est vraiment le cœur du christianisme. Il dit que si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas de résurrection, notre prédication serait vaine. Elle serait vaine, elle serait inutile, elle serait vide. La réunion s'arrête là. Vous pouvez rentrer chez vous, fermez vos Bibles, laissez-les sur les chaises et voilà. On peut aller faire autre chose aujourd'hui. C'est vain. On peut tout arrêter maintenant sans résurrection. On peut même jeter sa Bible à la poubelle. Ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que dès la Genèse, on voit que Dieu, il est dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu des vivants. Ce n'est pas le Dieu des morts. Et c'est parce que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants et vont ressusciter aussi. Et donc, déjà dans la Genèse, la résurrection est là. Et elle était l'espérance, hein, et elle est l'espérance des Juifs. Et puis, elle se poursuit après, dans le christianisme, elle est toujours notre espérance. Et Paul dit, « Et votre foi aussi est vaine. Votre confiance en Dieu, votre communion avec Dieu, vos convictions, tout ça, ça perd son sens s'il n'y a pas de résurrection. Il n'y a plus rien qui est vrai. Sans résurrection, tout le christianisme s'effondre. » Et puis le judaïsme sur lequel le christianisme repose, eh bien, s'effondre aussi. Tout s'effondre. Et Paul va plus loin, il dit, mais, par voie de conséquence, c'est logique. Et à ce moment-là, eh bien, tout repose sur des faux témoignages, sur des mensonges. Tout n'est que mensonge. Et oui, parce que s'ils ont dit que Christ est ressuscité et que Christ n'est pas ressuscité, alors eh bien, tout est mensonge. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça serait vraiment qu'une vaste fumisterie ? Une blague, quoi, une blague. J'aimerais vous lire un texte d'un théologien écossais qui s'appelle Hill. Il a étudié la résurrection et il a fait une déclaration qui mérite d'être lue. Il a écrit, « Mais si, malgré toutes les preuves, vous rejetez le témoignage, entre parenthèses, de la résurrection, il vous faut expliquer toute une foule d'absurdités. 12 hommes de basse extraction, sans éducation, et dont le mode de vie interdisait toute ambition, auraient mis au point, sans être aidés par le gouvernement, le projet le plus noble que l'homme ait jamais conçu, employé les moyens les plus audacieux pour le mettre à exécution, et l'aurait mené à bien avec tant d'habileté que l'imposture revêtit les traits de la simplicité et de la vertu. Ces hommes se seraient rendus coupables de blasphème et de tromperie, unis dans une même machination rusée, qui s'avéra être le meilleur moyen de rendre l'homme bon. Ils auraient conçu ce projet singulier sans rechercher le moindre avantage personnel, indifférents aux risques, mais conscients de leurs actes. Bien que chacun connaissait l'infamie de l'autre, aucun n'aurait songé à la dévoiler pour se protéger lui-même, et au milieu des pires souffrances physiques, ils seraient restés fidèles à leurs mensonges, qui devaient apporter au monde piété, honnêteté et bonté. En vérité, l'homme qui accepte tout cela n'a pas le droit de dire que les miracles n'existent pas. C'est vrai, quand on regarde tout ce témoignage, voilà, des chrétiens, ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils ont vécu, et tous ces disciples, plusieurs centaines, on a vu ça la dernière fois, qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, ils auraient accepté après d'être rejetés, d'être persécutés. Ils auraient gardé ensemble un faux témoignage? Non. Et on voit que le christianisme est lié à la résurrection. On ne peut pas faire autrement que de croire à la résurrection des morts. Ensuite, il n'y a pas d'espérance sans résurrection, puisque Paul dit, versets 17 à 19, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Ici, on voit trois choses qui s'enchaînent. D'abord, il dit « Nous sommes encore dans nos péchés ». Ça veut dire que, en fait, nous nous serions imaginés avoir reçu le pardon de Dieu et peut-être nous nous serions auto-persuadés d'avoir une bonne conscience, une conscience purifiée, mais tout cela n'est que chimère. En fait, nous sommes encore dans nos péchés. Et on voit ici l'importance de la résurrection. Il y a deux choses que l'on peut voir. On prêche, comme je disais tout à l'heure, souvent Christ crucifié. Parce que Jésus est mort pour nous, parce que c'est sa mort sur la croix qui nous permet de recevoir le pardon. Il a fait l'expiation de nos péchés, donc on peut recevoir le pardon, et ça c'est vrai. Mais ce n'est pas croire qu'un homme est mort pour nous qui sauve, mais c'est croire que le Fils de Dieu parfait est mort pour nous qui sauve. C'est ça, croire que le Fils de Dieu parfait est mort pour nous. Et la manifestation de la divinité, justement, qu'il est le Fils de Dieu parfait mort pour nous, elle se voit clairement dans sa résurrection. C'est sa résurrection glorieuse qui manifeste que c'est vraiment Dieu qui a versé son sang pour nos péchés. D'ailleurs, Paul dit bien au début du chapitre que l'évangile, ce n'est pas seulement croire que Christ a été crucifié, mais c'est croire que Christ a été crucifié et qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie. Ainsi, celui qui ne croit pas à la résurrection, comme ces hommes qui ne voulaient pas croire à la résurrection, eh bien, ils sont en train d'attaquer le fondement, hein, l'évangile. L'évangile, c'est Christ ressuscité et que nous allons ressusciter. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est si Christ n'était pas ressuscité, alors nous n'aurions aucun espoir d'être délivrés maintenant de nos péchés, c'est-à-dire ici dans notre vie présente. Et nous serions réellement encore tous dans nos péchés avec aucune issue possible. Prisonniers. Parce que c'est la résurrection de Christ, c'est son ascension au ciel, et c'est le fait qu'il a présenté son sang au Père, qu'alors, eh bien, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de puissance, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection, nous a été donné. Il est descendu dans notre cœur pour, eh bien, nous affranchir de nos péchés ici-bas. Imaginez que Christ ne soit pas ressuscité, donc pas monté au ciel. Ben, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Et s'il n'y a pas eu de Pentecôte, alors eh bien, il n'y a pas la puissance. Hein. On se retrouve finalement comme sous la loi, sans la puissance de vivre la vie du ressuscité. Ensuite, s'il n'y avait pas de résurrection, alors eh bien, nous serions perdus. Comme il dit, eh bien, et tous ceux qui sont morts en Christ, en fait, c'était une espérance vaine, donc ils sont perdus, en fait. Ils sont perdus pour l'éternité, voué à la perdition. Et là, eh bien, toute notre espérance, elle se transforme en désespoir. Et c'est ce que Paul dit, il termine sa pensée, hein. Il dit que si notre espérance, ce n'était qu'une espérance que nous avons alors que nous sommes ici-bas, sur terre, et qu'en fait tout est erroné, il dit, mais on serait les plus malheureux des hommes. C'est dramatique, dramatique. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes avancent dans quelque chose pendant des années, parfois des décennies, et puis, oh, au moment où elles réalisent, elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis complètement trompé. Si ce n'était pas vrai, le christianisme, et si la résurrection n'était pas vraie, ce serait un drame, un vrai drame. Paul va plus loin, puisqu'il dit qu'il n'y aurait aucune raison de vivre plus longtemps pour Dieu s'il n'y avait pas de résurrection. Regardez versets 29 à 31. Il dit « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, je fais une parenthèse ici. Pourquoi Paul va dire, eh bien, voilà, parler de se faire baptiser pour les morts. Alors, les saints de Jésus-Christ des derniers jours, pour faire long, les mormons, pour faire court, prennent ce verset d'une manière littérale. Pour eux, c'est littéral, et c'est la raison pour laquelle ils se font baptiser pour les ancêtres. C'est-à-dire, ils se font baptiser pour leur grand-père, ou pour leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, aussi loin qu'ils peuvent aller. Hein, donc, parce qu'ils pensent que, bien, en faisant ça, eh bien, ils permettent aux générations passées d'accéder aussi au salut. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très forts dans la généalogie, et ils essayent d'avoir les généalogies du monde entier, donc, si c'était possible. En vérité, aucun chrétien né de nouveau ne prend ce verset au pied de la lettre. Que ce soit des charismatiques jusqu'aux darbistes les plus fermés, aucun ne prend ce verset au pied de la lettre. Pourquoi ? Parce que la Bible fait partie d'un ensemble. Et c'est clair que si Dieu avait voulu enseigner ça, eh bien, il nous l'aurait confirmé avec un autre verset ailleurs. On aurait trouvé le pendant qui vient dire, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Mais là ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un verset, ils l'ont sorti, et puis ils en ont établi toute une doctrine, finalement, sur laquelle repose ce mouvement. Et c'est comme ça que font les sectes. Ils prennent un verset, et puis ils font reposer leur mouvement sur cela. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire ? Dans tout le chapitre, Paul est en train de défendre le fait de la résurrection. Et il semble qu'il veuille dire, à quoi ça sert de se faire baptiser à la suite des chrétiens morts, un petit peu en quelque sorte comme pour remplacer, à quoi ça sert de se faire baptiser à leur suite, suivre leurs traces, si la résurrection, elle n'existe pas? Parce que c'est ça le sujet ici du chapitre. Autrement dit, pourquoi prendre position pour Jésus-Christ par le baptême si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, si la résurrection n'existe pas? Pourquoi? Parce que le baptême, c'était vraiment une prise de position. Et vous savez, quand on était juif ou païen, particulièrement à l'époque, dans un monde qui n'était pas encore christianisé, si on se faisait baptiser, alors, eh bien, il y avait des réactions. Et on voit ça dans le livre des Actes. Hein. On pouvait se faire persécuter par sa famille ou bien par ses contemporains autour de nous parce qu'ils n'acceptaient pas ce changement complet. Et donc, prendre position par le baptême, c'était quelque chose qui coûtait. Alors il dit, mais à quoi ça sert finalement de souffrir si la résurrection n'existe pas? Pourquoi on va prendre position? Pourquoi on va se faire baptiser? Et il poursuit, et on voit que c'est un fil. Il dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Pourquoi je vais souffrir à aller annoncer l'évangile si Christ n'est pas ressuscité? En fait, pourquoi souffrir s'il n'y a pas de résurrection? Pourquoi vivre pour Dieu? Pourquoi accepter des sacrifices pour Dieu? Pourquoi renoncer à soi-même? Pourquoi se faire rejeter par ceux qu'on aime? Pourquoi résister, vouloir être fidèle coûte que coûte s'il n'y a pas de résurrection? En fait, ça n'a pas de sens. Il poursuit verset 31, il dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, Quel avantage m'en revient-il ? Et vivre pour Dieu d'une manière sincère, d'une manière consacrée, c'est quelque chose qui a un coût, c'est quelque chose qui a un prix. C'est une vraie bénédiction, parce que Dieu est avec nous, mais c'est quelque chose qui coûte aussi. C'est quelque chose qui fait qu'il y a un combat, c'est parsemé de difficultés, de problèmes, de souffrances. Et d'un point de vue humain, s'il n'y a pas de résurrection, ben arrêtons de souffrir, hein. Arrêtons le combat, ça ne sert à rien. Alors on ne sait pas si Paul a réellement combattu contre des bêtes à Éphèse ou s'il faisait un peu, il prenait une image, une métaphore pour expliquer comment il a été rejeté, malmené justement à Éphèse, hein, donc dans cette ville. Mais si, qu'importe, hein, qu'importe qu'il ait vécu l'un ou l'autre, mais si la résurrection est un mensonge, alors pourquoi avoir vécu cela ? Mais si c'est vrai, s'il y a une résurrection après la mort, si la vie se poursuit après, alors eh bien ça change tout, véritablement. Et la résurrection, c'est donc aussi une raison de vivre pour Dieu et d'accepter les souffrances. Et puis enfin, et j'aimerais prendre la fin du verset 32, il dit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » Et ici, eh bien, on voit que s'il n'y a pas de résurrection, alors pourquoi je vais chercher à être plus saint, à me sanctifier, à avancer dans la sainteté, à rechercher la sanctification, comme dit la Bible. Mangeons, buvons. Autant vivre, autant jouir du plaisir, du temps qui passe, de tout ce qui, voilà, tout ce que le monde m'offre. Il y a plein de choses à faire, hein. Plutôt soyons des hédonistes, hein, ou des épicuriens, plutôt que chrétiens. Et ce n'est pas que Dieu veuille nous priver de certaines choses, mais la vie avec Dieu, eh bien, c'est aussi accepter de renoncer à certaines choses. Dieu nous fait du bien sur le chemin, mais parfois on accepte de renoncer, on dit ben, « ce n'est pas la peine, il y a quelque chose qui est plus précieux là, qui est plus important. » Mais s'il n'y a pas de résurrection, ben alors ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et dans ce cas, eh bien, on peut se faire plaisir. Sans compter, allez, hop. Pourquoi on va chercher à faire la volonté de Dieu ? Pourquoi on va sacrifier un plaisir ? Parce qu'on veut placer au ciel ? On veut avoir un trésor dans le ciel ? Non, allons-y, jouissons. Et on rejoint un petit peu la pensée de l'Ecclésiaste, donc Salomon, qui a dit une parole, lui qui s'est mis un peu dans l'idée d'une personne matérialiste qui va jouir des choses de la terre, et il va dire « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. » Bien sûr, Salomon n'en reste pas là. Après, il renvoie vers Dieu. Mais néanmoins, s'il n'y a pas de résurrection, alors c'est logique. Autant en profiter, autant se faire du bien sur cette terre. Mais dans cette logique, alors il y a beaucoup de « peu importe ». Peu importe si on abuse de certaines choses. Peu importe si notre corps se détruit, parce qu'on abuse peut-être. Peu importe si on vit pour soi-même, sans avoir égard pour ceux qui nous entourent. Peu importe s'il y a des dommages collatéraux dans ma recherche du plaisir. Peu importe. Peu importe si ce que je fais n'est pas bien moralement. Et il y a plein de peu importe comme ça qui surgissent s'il n'y a pas de résurrection. Mais il y a un mais, un grand mais, hein, qui doit être affiché, hein, mais oui, le christianisme est vrai. Oui, il y a une espérance. Oui, nous avons raison de vivre pour Dieu. Oui, nous avons raison de rechercher à marcher avec le Seigneur et à nous sanctifier. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mais. Versets 20 à 23. Mais, c'est dommage que dans la Bible, les minuscules restent des minuscules, parce qu'on a envie de mettre des majuscules là. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et c'est une réalité ici que Paul développe. La mort, d'abord, elle est entrée dans le monde par Adam. Ça, on le constate tous, hein. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas très logique, pas très compréhensible de voir la vie qui commence d'une manière qui est miraculeuse et qui se termine parfois d'une manière si dramatique, si triste, hein, si malheureuse. Parce que la vie, c'est vraiment un miracle. Quand vous y réfléchissez, des cellules qui se multiplient toutes seules, qui se multiplient, qui commencent à s'ordonner, s'organiser d'une manière intelligente, d'une manière logique pour donner un bébé, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et le bébé qui ne s'arrête pas de croître, de se développer, de mûrir, la vie est en train de faire un travail là, et puis on devient un beau jeune homme, une belle jeune femme, dans la force de l'âge là, et ça ne cesse pas de se multiplier les cellules. Doué d'intelligence, de volonté, de créativité, de réflexion, de spiritualité. Et puis soudain, prof, c'est le déclin qui commence à se faire sentir. Et là, le corps s'use, c'est la maladie, c'est la souffrance, les problèmes, c'est la vue qui commence à baisser. Moi, je me demande si bientôt je ne vais pas avoir des lunettes. C'est l'ouïe qui commence à faire des siennes aussi. La réflexion qui devient difficile, on devient un peu parfois confus, la mémoire qui s'étiole, et puis un jour le cœur qui s'arrête. C'est dramatique. Pourquoi il y a un tel miracle, un miracle que les hommes n'arrivent pas à créer, la vie. On prend la vie et on joue avec la vie, mais on ne peut pas créer la vie. Pourquoi il y a un tel miracle et puis après une telle fin? C'est humainement inexplicable. Mais si on prend la Bible, eh bien, on voit, ici c'est expliqué. On comprend ici. La Bible explique que nous mourons alors que tout était programmé pour vivre. Mais si nous mourons, c'est parce que la mort est venue par un homme. La mort est entrée dans l'humanité par un homme, Adam. Parce que Adam a péché, alors il a vécu les conséquence de son péché, Adam est mort, et il nous a transmis sa nature pécheresse qui nous a amené à nous-mêmes pécher et qui nous conduit nous-mêmes vers la mort. C'est pour tous les hommes. Il est dit, tous nous mourons en Adam. Mais Jésus est venu interrompre ça. Il est venu mettre un arrêt à cette chute vers la mort. Il est venu nous donner la vie. Il est venu régler cette question du péché, et en réglant la question du péché, eh bien, il règle aussi la question des conséquences du péché, c'est-à-dire la mort. Et il l'a fait. Il l'a fait d'abord en vivant une vie parfaite, une vie sans péché, une vie pure. Il n'y a personne qui vit une vie pure, parfaitement pure, mais lui a vécu une vie pure. Et ensuite, il est mort comme un coupable pour nos péchés. Et il a reçu ce que méritaient nos péchés. Et puis, il est ressuscité pour nous donner sa vie parfaite, pour faire un échange. Je prends votre vie de péché et de pécheur, elle est sur moi, sur la croix, et je vous donne ma vie parfaite, ma vie pure, ma vie sans péché, ma vie qui vous permet, eh bien, d'entrer dans l'éternité auprès de mon Père. C'est pour ça que Paul dit « tous revivront en Christ ». Quand il dit « tous », il ne dit pas « tous » d'une manière absolue. Il dit tous, mais en fait, c'est quand vous lisez toute la Bible, vous voyez bien que c'est tous ceux qui croient, en fait. C'est tous ceux qui acceptent Christ, tous ceux qui se donnent à Jésus-Christ, qui lui offrent leur vie. C'est ceux-là qui vont ressusciter. D'ailleurs, Paul le dit. Il dit tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est ceux qui appartiennent à Christ. Est-ce que vous appartenez à Christ? C'est une bonne question, hein? Est-ce que vous savez, oui, j'appartiens à Christ parce que je lui ai donné ma vie. Elle est à lui et donc je lui appartiens. Il l'a reçue. On voit dans la Bible qu'il est parlé de deux résurrections, la première et la seconde. La seconde, elle est pour tous les hommes, tous les pécheurs qui n'auront pas accepté Jésus-Christ. Ceux-là, ils vont ressusciter. Tous ceux qui ne croient pas en la résurrection, qui ne croient pas en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ils vont ressusciter, mais ils vont ressusciter pour la mort, pour la condamnation. On voit ça à la fin du livre de l'Apocalypse. Et puis, il est parlé de cette première résurrection. Et la première résurrection, elle est en trois temps. Le premier temps, c'est quand Christ est ressuscité. Il est dit, il est les prémices, c'est-à-dire il est les premiers fruits de la résurrection. Et puis vient, on pourrait dire, la moisson, c'est lors de l'enlèvement, lorsque l'Église va être enlevée avec Jésus-Christ, à ce moment-là, tous les chrétiens, morts de tous les temps, qui sont nés de nouveau, vont ressusciter, ils vont prendre leur corps, et ils vont monter, c'est l'épouse de Christ. Et puis vient un troisième temps, qui est toujours la première résurrection, c'est lors de la fin de la tribulation, lorsque tous ceux qui auront souffert dans la tribulation, donc ce temps qui va être très difficile pour le monde, où il y aura les jugements de Dieu, eh bien tous les croyants qui seront morts avec foi en Dieu et en Jésus-Christ, tous ceux-là vont ressusciter. C'est le glanage, hein, c'est la fin de cette première résurrection. Et puis aussi, tous les croyants de l'Ancien Testament vont ressusciter aussi à ce moment-là, et puis ils vont entrer dans leur espérance, ils vont rentrer dans le millénium, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Voilà la première résurrection. Le verset tout à l'heure, durant le culte, est « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Et on aura tous part à une résurrection, soit la première, soit la deuxième, soit la première parce qu'on s'est réfugié en Christ, soit la deuxième parce que, eh bien, on n'a pas fait ce pas, on n'a pas accepté Jésus. On ne s'est pas repenti de nos péchés. Alors, eh bien, on va ressusciter, mais pour un jugement. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Versets 24 à 28. Ensuite, viendra la fin, quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu, son Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et là, on est dans une description du millénium. Donc ce temps où Jésus-Christ va régner, il est dit avec une verge de fer, on lit ça dans le psaume 2, il va imposer la justice au monde et il y aura la paix. On va revenir un peu comme dans un paradis, finalement, parce que de nouveau, eh bien, le loup et l'agneau pourront être ensemble. Les animaux ne sont plus carnivores. On sera probablement végétarien de nouveau. Et il y aura la paix. Et il y aura une paix parfaite sur toute la surface de la terre durant ce temps. Période où il finira par mettre tous ses ennemis sous ses pieds et d'une manière qui est définitive, qui est éternelle. Il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus d'hommes qui s'élèveront contre Dieu. Ça sera terminé. Plus d'ennemis. Et le dernier ennemi, ce sera la mort. Il est dit qu'il sera réduit à l'impuissance. Parce que Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la mort ne sera plus. Plus de mort. Les animaux, s'il y en a, ne mourront plus. Les hommes ne mourront plus. Ils vivront éternellement parce que le péché ne sera plus. Et donc, les conséquences du péché, la mort, ne sera plus non plus. Ça sera terminé. Alors, Dieu le Fils, régnant sur toute chose, sera soumis à son Père. Et le Dieu de vie sera réellement en tous et en tout. La vie sera là. La nouvelle création va jouir de la paix, va jouir du bonheur, un bonheur éternel. Et toute la création sera dans la reconnaissance et dans l'adoration de leur bienfaiteur, de leur créateur, de leur Dieu. Souvent, les gens posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel, dans le ciel ou dans la nouvelle création, hein? On va jouer de la harpe, hein? Mais quand on réfléchit un petit peu, souvent, moi, je leur dis, mais regardez la terre. Regardez la terre, un peu comment elle est faite, notre univers. Quand on observe l'homme, avec toutes ses ressources, toutes ses capacités, toutes ses possibilités de chercher, de découvrir, d'innover, de créer, de construire. Quand on regarde le potentiel qu'il y a sur cette terre, et l'on ne cherche pas d'essayer de creuser, de trouver de nouvelles choses, et il y en a toujours. Il n'arrive jamais au bout. On ne peut pas arriver au bout, on a l'impression. Et une telle diversité, une telle variété, une telle beauté sur cette terre, et Dieu l'a fait en 6 jours. Il aurait pu peut-être le faire en 1 jour. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il nous montre en 6 jours, il a fait cet univers, cette terre. Alors, j'ai aucun souci pour ce qu'on va faire après. C'est clair que Dieu est infini dans sa pensée. Ça va être merveilleux. Personne ne s'ennuiera. Et on va imaginer qu'on puisse voir des choses qui sont complètement différentes et pourtant complètement nouvelles. Probablement, ce sera comme ça. Et on n'existe pas juste pour vivre quelques décennies et puis ensuite pour s'éteindre, et puis c'est fini. Mais on existe parce que Dieu nous a créés et qu'il veut qu'on vive pour toujours, pour l'éternité, avec lui, dans sa présence. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous, pour prolonger notre vie par la résurrection. Mais j'aimerais terminer avec l'exhortation que Paul nous donne, versets 33 à 34. Il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Après avoir longuement défendu le bien, la raison d'être de la résurrection, il glisse cette exhortation dans son texte. Et c'est certain, je reviens sur ça, s'il n'y a pas de résurrection, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais s'il y a une résurrection, alors il y a une raison de veiller sur notre conduite, sur notre vie, sur nos fréquentations. Parce que, on peut dire, l'éternité est à la porte, pour ainsi dire. Quand on voit la fragilité de la vie, là, vous avez entendu cette semaine, ce petit garçon là qui a été intoxiqué, il est mort. Il va à une colonie, puis hop, ses parents le perdent. La vie est fragile, vraiment fragile. Notre vie à tous est très fragile. Donc, l'éternité, mais c'est à la porte de chacun. Ça peut être demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, on n'en sait rien. On ne sait pas. Et soit on prépare notre rencontre avec Dieu, avec un désir d'être trouvé devant lui comme il veut, saint, pur, consacré. Et dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut marcher avec Dieu. Soit nous négligeons ce rendez-vous, et puis dans ce cas, c'est le contraire. Peu importe si mes fréquentations, elles me tirent vers le bas, elles me tirent vers l'immoralité, vers le péché, peu importe, j'avance, je continue. Peu importe si mon plaisir ne se trouve pas en Dieu, peu importe. Et on avance comme ça. Mais il y aura aussi des conséquences. J'aimerais vous partager un passage qui m'a fait du bien cette semaine. C'est en Luc 21. Et c'est les versets 34 à 36. Il est dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, ce passage, si on regarde le contexte, il traite clairement de la tribulation. Donc, ce temps qui viendra après l'enlèvement, où il y aura tous ces jugements qui vont tomber sur la terre. Mais on peut bien sûr l'appliquer à nous-mêmes, à notre vie. Et ce ne serait pas un bon choix que de ne plus se soucier que de manger et de boire. Et Jésus, ici, nous met en garde. Il est en train de parler de la fin des temps. Il met l'accent, ici, sur le manger et le boire et sur les excès. Il dit, mais lesquels finissent par nous appesantir. Alors, je ne pense pas qu'il veuille dire simplement, on va prendre du poids, hein, mais c'est que ça finit par nous endormir, en fait. On ronronne et on n'est plus vivant pour le Seigneur. Et Dieu ne veut pas qu'on soit surpris lorsqu'il viendra. C'est ce qu'il dit ici, hein, et qu'il aura décidé de nous reprendre avec lui. C'est pourquoi il dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. » Et là, ici, Dieu donne un moyen de traverser l'épreuve, de traverser les choses qui seront difficiles dans la tribulation, donc toutes les souffrances et les tentations. Mais on fait le parallèle, bien sûr, avec nous. Il nous donne aussi le moyen pour nous de vivre aujourd'hui sur ces moments et de traverser nos tentations, nos souffrances, nos difficultés, tout ce qui pèse sur nos cœurs. Il nous dit, veillez donc, priez en tout temps. N'arrêtez pas. Entretenez une vie de prière. Vivez une communion vraie avec Dieu. Ne vivotez pas la vie chrétienne, mais vivez. Cherchez à connaître votre Dieu. Rapprochez-vous de lui. Désirez-le dans votre vie. Vraiment plongez, nourrissez-vous de lui. Et alors vous aurez la force d'échapper à tout. Aux tentations, aux épreuves, au découragement, à l'abattement, à toutes ces choses. Saisissez les occasions, rachetez le temps. C'est ce que Paul nous dit encore, rachetez le temps. Celui qui ne prie pas, ou peu, il est nécessairement un chrétien qui devient faible. Il s'affaiblit dans sa vie chrétienne. Il devient fragile, il est facilement tenté, et puis il est facilement entraîné. Si quelqu'un lui dit « Ah viens, les mauvaises mœurs, ah viens, on va faire ça ben, », il n'arrive pas à dire non. Et puis ben, il y va. Puis après, il se retrouve à faire des choses, il sait très bien qu'il ne devrait pas les faire. Et voilà. Et après, il est triste, il est malheureux. Veillez et priez en tout temps. Pour reprendre un Corinthien, Paul dit « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. » Revenez à vous-même, ça fait penser au fils prodigue. Hein. Il est rentré en lui-même. Il a dit, mon père, enfin, il a dit, je vais dire à mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Revenez à vous-même, rentrez en vous-même. Revenez au Seigneur et ne péchez point. Un jour, on va tous se tenir devant Dieu. Si on vit dans l'anticipation de la résurrection et du ciel, on va se détacher petit à petit de la poussière de la terre. On aura les pieds sur terre, on va agir, faire, mais on vivra déjà avec le cœur et les yeux dans le ciel. Et pour terminer, on voit la résurrection a donc une place centrale dans la foi chrétienne et elle doit aussi avoir une place centrale dans ma vie, dans mon cœur. Il faut vivre cette espérance. Et j'aimerais juste conclure avec 1 Jean 3, versets 2 et 3. Il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est-à-dire ce que nous serons lorsque nous allons ressusciter. Cela n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, alors nous serons semblables à lui, glorifiés. » Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Gardez cette espérance de la résurrection. Je vais ressusciter et il faut que je vive pour mon Dieu et mon Seigneur. Et je vais me purifier.